Alors, quand Michel Cotta dit aussi qu'ils ont refusé de se regrouper avec d'autres radios, c'est faux, c'est archi faux. Carbone 14 a fait des tas de propositions par téléx, par écrit. Nous en avons les traces et les preuves. Carbone 14 a bien fourni un dossier à la haute autorité. Carbone 14 a bien demandé à se regrouper avec d'autres radios. Elle était prête à beaucoup de sacrifices. On l'a refusé parce que tout simplement, on ne voulait pas qu'elle se regroupe. Un point, c'est tout. Alors, qu'on n'essaie pas de nous faire croire aujourd'hui que c'est de notre faute, c'est faux. Que Carbone 14 est une radio qui dérange, n'en doutons pas. Parce que sinon, ça ne dérangeait pas pourquoi ce matin les camions de TDF dans le secteur de Carbone 14 ont permis à ce qu'il y ait cette espèce de brouillage qu'il y avait en début d'émission. Il est vrai qu'ils n'avaient pas d'émetteur suffisamment puissant pour nous brouiller complètement, ce qui fait que nous avons réussi à les faire partir. Eh bien, je serais moins gêné si j'étais ces gens de TDF qui ont essayé de brouiller ce matin Carbone 14. Autre chose en ce qui concerne Carbone 14 qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est nos rapports avec la haute autorité. Ils ont toujours refusé de nous recevoir. Comment pouvez-vous parler, Madame Michel Cotta, de liberté, de pluralisme, quand vous avez refusé de recevoir des représentants de Carbone 14? Nous avons proposé de vous remettre 50 000 pétitions. Pas que je croie aux pétitions, ça m'amuse, mais ça faisait plaisir à certains animateurs de Carbone 14 de faire des pétitions. Eh bien, ils voulaient vous les porter, vous les avez refusées. Madame Michel Cotta, vous avez refusé de recevoir les animateurs de Carbone 14. Vous avez reçu les représentants de toutes les autres radios libres, mais de Carbone 14, vous n'avez même pas voulu les voir. Vous n'avez pas essayé de justifier. Ne dites pas aujourd'hui, Madame Cotta et consorts, que nous ne sommes pas une radio digne d'être sur la bande FM. Il suffit de lire la presse du monde entier, Madame Cotta, la presse du monde entier qui a découvert Carbone 14 et qui a reconnu Carbone 14 était une radio créative. Nous avons fait beaucoup de choses à Carbone 14, mais nous avons créé beaucoup. Si nous n'avions pas créé, Madame Cotta, n'oubliez pas que c'est à l'époque où vous étiez présidente de France, enfin, de Radio France, que vous aviez pris des animateurs de Carbone 14 pour remplacer l'été dernier Jacques Chancel sur la bande 18-19h. C'était les Fabuloses de Carbone 14 qui étaient chez nous, les Minablos. Alors, Madame Cotta, n'essayez pas de nous faire croire que tout cela ne vous intéresse pas, que ce n'est pas vous qui avez décidé, que c'est l'ensemble de la haute autorité. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge et honteux. Et si vous veniez à le dire, vous seriez tout simplement dans la forfaiture. Vous êtes une menteuse, mais ça, tout le monde le savait. Madame Cotta, vous devez votre place tout simplement d'avoir été complaisante lors d'un face-à-face Mitterrand-Giscard. C'était Mitterrand qui avait choisi Michel Cotta avait mis Michel Cotta dans une liste. Giscard, vous avez retenu dans cette liste, mais il oubliait que vous étiez plutôt dans le clan mitterrandiste. Et pour vous remercier, à vous, parce que vous, on ne vous a pas oublié dans la distribution des prix, eh bien, on vous a d'abord donné Radio France et puis la Haute Autorité. Vous êtes bien à votre place, mais néanmoins, le soir, le matin, quand je me regarderai dans une glace à votre place, j'aurai un petit peu honte de moi-même. Et comme je sais que vous m'écoutez, Madame Cotta, n'oubliez pas Carbone 14, Madame Cotta, a été une grande radio, quoi que vous puissiez dire, et vous l'avez écouté souvent, et je pense que si de toute la bande FM vous avez écouté une radio, c'est bien Carbone 14. Alors n'essayez pas de le nier aujourd'hui, n'essayez pas de nous faire mourir. Carbone 14 est mort, tout au moins avec moi, peut-être renaîtra-t-elle avec d'autres animateurs, d'autres responsables, une autre association, j'en sais rien. Moi, personnellement, j'abandonne, je ne fais pas le poids face à vous. Avec l'État français, effectivement, c'est dur à faire le poids. Cet État qui s'est ringardisé, cet État qui est devenu tout à fait agressif, mauvais et de mauvaise foi. Simplement, je voudrais rappeler à tous ces hommes politiques qui nous ont fait de belles promesses que nous ne les avons pas oubliées et que cela, c'est très triste. Bien, l'amour en direct, ça s'appelle Hardcore. C'est Michel Fisbin qui a cette idée-là, qui est une très bonne idée d'ailleurs, puisqu'elle a permis à la notoriété de Carbone 14, c'était faire quelque chose qui ne s'était jamais fait en France, c'était créer quelque chose de nouveau, oui, il y a eu un petit bruit, ça c'était pas un brouillage, c'était uniquement une mauvaise manipulation. D'ailleurs, on nous dit qu'il n'y a plus de brouillage en ce moment, donc ça a l'air d'aller bien, le camion qui était là, donc ça prouve bien que c'était eux qui nous brouillaient. Pour revenir à l'amour en direct, eh bien, ça a été une idée, pourquoi pas parler d'amour, pourquoi pas parler de sexualité en France. La France est un pays de bloqués, je pense. C'est un des endroits où les gens ont pas de problèmes sexuels. Les Français se prétendent libérés en sexualité et pourtant je pense qu'ils sont de grands bloqués. Il a suffi qu'on fasse l'amour en direct pour que ça fasse les gorges chaudes de la presse, ce qui prouve bien qu'il y avait quelque chose à dire là-dessus. Alors nous l'avons fait deux fois. Une première fois, c'était Michel Fisbin qui l'a fait, ça s'appelait Hardcore, et ça s'était réellement bien déroulé, malgré que la presse ait dit qu'ils avaient été roulés dans la farine, comme disait Libération, ça s'était réellement déroulé. Et comme la presse était un peu sceptique, nous l'avons réorganisé une deuxième fois, non plus avec Michel Fisbin, mais avec Jean-Yves Lafesse. Et cette fois-là, nous avions convié la presse de venir et ça s'était repassé une seconde fois. Donc il n'y avait plus de choses à dire là-dedans. Ça ne servait plus à rien de le recommencer une troisième, quatrième ou cinquième fois. Il suffisait d'être les premiers. Si quelqu'un le refait sur un jour sur la bande FM en France, eh bien tout simplement, ils ne créeront pas quelque chose. Ils passeront quelque chose qui existait déjà, qui a déjà été fait ailleurs par Carbone 14. Alors, sur ce point-là, au moins, nous aurons été des précurseurs. En ce qui concerne Jean-Yves Dernalier, c'est un peu plus complexe. Jean-Yves Dernalier, nous nous sommes servis de lui. Jean-Yves Dernalier est venu chez nous. Nous ne l'avons pas kidnappé, que les gens soient sûrs, puisque nous sommes au déballage de vérité. Je tiens à dire que nous avions, et pour preuve de notre bonne foi, envoyé un téléx, et je défie le ministère de l'Intérieur de dire que ce n'est pas vrai. J'ai le double du téléx, et là, de toute façon, ils ne le nieront pas. Nous avions envoyé au ministère de l'Intérieur à 22h05, la veille où est venu Jean-Yves Dernalier, car l'affaire a tourné au scandale, mais la police était tout à fait prévenue de ce qui allait se passer. Quoi qu'on en dise, je me défie, et là les gens nous écoutent et la presse nous écoute, je me défie le ministère de l'Intérieur de nier ce que je vais dire. Et nous avions donc passé à 22h05 un téléx, dans lequel nous disions « Jean-Yves Dernalier se trouve dans nos locaux ». Jean-Yves Dernalier va faire l'aveu qu'il n'a jamais été kidnappé. Jean-Yves Dernalier va faire l'aveu qu'il était chez nous ce soir-là. Et nous avons donc fait cette émission. Il s'est trouvé que le lendemain, effectivement, la brigade criminelle est venue chez nous. La brigade criminelle n'a jamais, jamais, jamais nié le fait que nous ayons envoyé ce téléx. Lorsque j'ai été convoqué par le juge Grelier, le lendemain, j'ai été surpris d'apprendre dans la presse, Dominique Fenu reconnaît avoir menti dans l'affaire Dernalier et se retracte. Je tiens à dire, et je mets en défi le juge Grelier, le procureur de la République ou le ministère de l'Intérieur, de me contredire dans ce que je vais dire. Je leur mets au défi de dire qu'une seule fois, nous avons reconnu avoir menti. Je tiens à dire que, conformément au téléx que nous avions envoyé la veille à 22h05, conformément aux déclarations qu'ont fait à la brigade criminelle, Régis Geoffrey et moi-même, ces déclarations faites le lendemain et celles qui ont été faites 8 jours plus tard au juge Grelier sont conformes. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, j'ai reconnu avoir menti quelque part. Je maintiens bien que dans toutes les déclarations que nous avons faites au ministère de l'Intérieur, à la brigade criminelle et au juge Grelier, ces déclarations sont, dans les trois cas, les mêmes. Elles ne sont modifiées d'aucune virgule, d'aucun point. En aucun cas, Carbone 14 ou moi-même ou Régis Geoffrey reconnaissent avoir menti quelque part. La presse, et je dirais surtout France ce soir et l'AFP, avaient fait paraître un téléx dans lequel je reconnaissais avoir menti. C'est faux. Je m'élève contre ce faux. Je n'avais même pas répondu à l'époque parce que ça m'amusait. Je m'élève contre ce faux et je dis bien, je remaintiens bien mes déclarations faites au ministère de l'Intérieur par téléx. Les déclarations faites à la brigade criminelle et les déclarations faites au juge Grelier sont strictement les mêmes. En aucun cas, Carbone 14, ou c'est un de ses animateurs, reconnaît avoir menti dans l'affaire Jean-Yves Dernalier. Je mets donc au défi, qui que ce soit, de me porter la preuve inverse. Jean-Yves Dernalier, qui a pourtant l'habitude et la faconde de poursuivre en diffamation beaucoup de gens, c'est bien gardé de poursuivre Carbone 14 ou moi-même en diffamation ou en dénonciation calomnieuse concernant cette affaire. Je tiens à dire que la presse et l'AFP a déjà manipulé l'opinion publique dans cette affaire une fois. Après que nous ayons eu dans nos locaux la déclaration de Jean-Yves Dernalier disant que son kidnapping était bidon, la AFP avait sorti un téléx dans lequel il était précisé que le couple d'instituteurs qui croyaient avoir reconnu Jean-Yves Dernalier s'était rétracté et disait qu'il s'était trompé de jour. Je dis également que là, la presse a commis un mensonge. Jamais ce couple d'instituteurs s'est rétracté. L'AFP a fait un mensonge et le savait bien. Le soir où Jean-Yves Dernalier était dans nos locaux, il s'est présenté un motard de l'AFP. Un gars donc qui est en moto de l'AFP, il est rentré et il nous a dit « Je veux absolument parler à Jean Edern. » Je lui ai dit « Tu ne peux pas participer à l'émission. Jean Edern est seul dans le studio. » Ce gars-là m'a répliqué « Si vous le gardez encore un peu, les gens vont, vous allez le manipuler et vous allez lui faire dire n'importe quoi. Il faut absolument que je lui parle 2 minutes avant que ce soit trop tard. » Nous avons refusé. Vous savez, ce journaliste-là, ce motard-là de l'AFP, c'est celui que Jean-Yves Dernalier avait appelé le jour de sa soi-disant libération, avant d'appeler la police. D'ailleurs, il avait préféré appeler l'AFP. Pourquoi pas ? C'était son droit. Ce que je tiens à dire, c'est que Le couple d'instituteurs n'est jamais revenu sur sa déclaration. Elle n'a jamais varié, quoi qu'en ait dit l'AFP. Les déclarations faites à la police et au juge Grelier concernant l'affaire Jean Edernalier n'ont jamais varié, quoi qu'on ait pu en dire, si l'on n'a pas osé toucher à Jean Edernalier. Eh bien, c'est tout simplement car, à part sous les régimes communistes et totalitaires, on ne met pas d'écrivains en prison. Sartre avait essayé, Jean Edernalier avait essayé, et ça n'avait pas marché. Je tiens à dire que je rétablis une vérité première en ce qui concerne l'affaire Jean Edernalier. Carbone 14 n'a pas menti au juge, pas menti à la police, et pas menti au ministère de l'Intérieur, et n'a jamais varié dans les déclarations qu'elle a faites à ces gens-là. Qu'à la presse, nous ayons eu par moments des déclarations douteuses ou boiteuses, ou qui nous a rangés, c'est possible. Mais je dis bien, je maintiens, lui persiste et signe une fois de plus, que au juge, ainsi qu'à la police et à la brigade criminelle, nous avons fait les mêmes déclarations, et que l'article de l'AFP tendant à faire croire que nous nous étions rétractés ou reconnus avoir menti est un faux bidonné. Mais enfin, ils en ont l'habitude. Voilà Bruno en ce qui concerne ces deux affaires.
C'était les grands moments de Carbone 14.
C'était les grands moments de Carbone 14, c'était l'époque où Carbone 14 était une ruche qui ronronnait, où c'est qu'il s'y passait beaucoup de choses, où c'était vraiment dingue, et il fallait voir ces gens se défoncer dans ce qu'ils faisaient.